Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, nous allons laisser cette semaine Suzanne Sargenton, voilà, et puis ses mémoires, et on la reprendra un jour parce que je crois qu'il reste un volume sur les trois, on en a épuisé deux. Donc il en reste un à voir, on verra ça un peu plus tard. Alors, cette semaine, on va rejoindre Jean-Luc Aubarbier. Alors, Jean-Luc Aubarbier, c'est quelqu'un dont on a souvent parlé, de ses œuvres. Alors, là, il a édité un livre qui s'appelle « Le fils du cabaretier » et qui a quand même pas mal de pages. C'est un volume important qui a 570 pages, quelque chose comme ça. Alors, « Le fils du cabaretier », évidemment, c'est un sarladé, et ce livre est édité par Terre de France et en 2024. Alors, il y a bien sûr un petit encart. Alors, Jean-Luc Aubarbier, le fils du cabaretier, alors, c'est le fils naturel d'un cabaretier sarladé, Corentin Fournier, est obsédé par ses origines. Dévoré d'ambition, il ne peut compter que sur ses dernières années de l'ancien régime, et sur le soutien de l'Église pour s'élever dans la société. Avant de convoler avec Catherine, le jeune homme doit s'établir. Au domaine de Margot, dans le Médoc, il devient le commis du marquis d'Olède. Séduit par cette région où les nobles travaillent, Corentin s'installe à Bordeaux où il gère une maison de négoce pour son protecteur et se lie d'amitié avec Zéphir. Alors Zéphir, c'est un métis d'un noble et d'une esclave, et pris comme lui de justice sociale et de liberté. Ou bien sa fiancée, Corentin songe à épouser Olympe de Verteuil, malgré la rivalité, l'opposant un redoutable esclavagiste qui semble tout savoir de lui. La révolution éclate et tout devient possible alors. Et évidemment, tout cela, c'est une formidable plongée dans la grande histoire portée par un héros fascinant. Et ce héros, c'est le demi-frère de Fournier, François Fournier Saint-Lovel, le sabreur de l'Empire et le plus mauvais sujet de Napoléon. Alors pour notre auteur, c'est-à-dire Jean-Luc Aubarbier, on nous dit qu'il est écrivain et libraire. Jean-Luc Aubarbier est né à Sarlat, passionné par l'histoire. Il a notamment publié Les démons de Sœur Philomène, dont on a déjà parlé à ce micro, adapté au cinéma sous le titre de Ici-bas en 2012. Et puis il a publié au présent cité Un Kibbourg sans Corrèze et Le chant des martyrs, que l'on a déjà évoqué ici. Alors, pour ce livre, donc, sur le frère du plus mauvais sujet de l'Empire, alors le fils du cabaretier, il y a un prologue. Voilà un peu ce passage, ce que nous dit ce prologue. Ce n'est pas un métier facile que celui de père, dit Pierre Murat. Alors Pierre Murat, il est venu approvisionner en vain le cabaret du tapis vert, et c'est le père, bien sûr, de Murat. Alors, ce n'est pas un métier facile que celui de père, dit Pierre Murat, s'approchant de son collègue. Je n'imagine pas quel monde nous prépare cette jeunesse. Alors la jeunesse, c'est deux des enfants du cabaretier, donc de Fournier, qui est en train de se bagarrer entre les clients. Il savait de quoi il parlait, aubergiste à la Bassine Fortunière. Alors, il y a un petit passage, un rajout qui nous dit aujourd'hui la Bassine Murat dans le Lot, qui était la Bastide Fortunière, dans le Quercy voisin, puisqu'encore ce n'était pas le Lot. Il avait élevé les 11 enfants que sa femme lui avait donnés, né en 1767, Joachim, qui sera le prince Murat, était le petit dernier, sa mère destinée à la prêtrise, ce garçon fin, très beau et doué pour les études. Pierre Murat pouvait être satisfait de son sort. Son commerce auquel s'ajoutait un relais de poste était prospère, il s'honorait du titre de marguillier de sa paroisse, protégé par la famille Talleyrand. Une scrupuleuse probité, il avait été choisi pour gérer les biens du diocèse du Haut-Quercy. C'était un homme affable, de caractère calme et posé, propriétaire de vignobles dans la vallée du Lot. Il était venu approvisionner l'auberge de son confrère Fournier, qui risquait la rupture. Les deux hommes s'entendaient bien, et la querelle qui avait opposé les deux jeunes, qui les avait opposés également tous les deux, étaient de pure forme. Seuls les deux enfants l'avaient prise au sérieux. Voilà. Alors, ben, je continue un tout petit peu, un peu plus jeune que le Quercinois, Jean Fournier était aussi de fortune plus récente et sa place dans la cité de Sarlat était moins assurée. Propriétaire de l'auberge du Tapis Vert, près du couvent des Cordeliers, proposait le boire et le manger aux voyageurs qui avaient franchi l'octroi à l'entrée nord du bourg, situé hors les murs, quartier de Landreville ne profitant pas du passage de la population bourgeoise. La clientèle est essentiellement constituée d'ouvriers agricoles, de paysans durs et entêtés, de petits artisans, de gens de peu qui n'avaient pas grand-chose à dépenser. Mais avec tous ces impôts et tous ces règlements qui nous empêchent de travailler, ce pays Fournier, ce régime est à bout de souffle. Contrairement à Pierre Murat, qui avait su naviguer sur le courant des lois et des protections royales, qui en tirait grand bénéfice de Sarladé, se débattait dans les difficultés. Cabaretier, ce n'est plus un métier, protestatif, nous vendons du verre au détail, à consommer sur place sans pouvoir ouvrir les jours fériés, ni le dimanche pour pouvoir nourrir notre clientèle, mais la corporation des charcutiers nous interdit de tuer le cochon. L'évêque exige que l'on soit bon catholique et que l'on ferme les trois derniers jours de la semaine sainte, sinon on risque l'amende et même la prison. C'était pas très réjouissant tout ça. Bon, ben c'est l'ancien régime. Alors, on va passer une grosse partie de ce livre au Corentin. Bon, on va s'établir comme on l'a vu à Bordeaux. Et donc, bien sûr, il va y avoir quand même pas mal d'exactions. Alors, voilà ce qu'on nous dit. L'ordre finit par revenir lui-même dans ce monde qui semblait ne plus être dérangé par quiconque. À Périgueux, Pipeau Desgranges poussait pour le suffrage universel et prônait la modération. Il argumentait aussi pour la libre circulation du grain afin d'approvisionner les vendeurs affarmés qui manquaient autant de raisons que d'oreilles. Seul le libéralisme économique nous sauvera, affirma-t-il, avec ses propos qu'auraient approuvé ses collègues bordelais. La distribution de la nourriture par l'administration est une catastrophe. Il rappelait dans ses conseils la nécessité de créer avec les citoyens un véritable contrat social. Il n'est de distinction que celle que donne le mérite, affirma-t-il. Le talent, le courage, la vertu sont nos seuls guides. L'abbé Lasserre l'avait mis en contact avec Corentin pour tenter d'établir une collaboration entre les deux provinces voisines et pourtant si différentes. C'est vrai que le Périgord n'était pas, un pays très riche par rapport au Bordelais. Alors, on va reprendre un peu 1790. Alors, en février 1790, l'évêque Ponte d'Albaret fut élu maire de Sarlat à l'unanimité avec Pierre Pontard, comme officier municipal. Il savait apaiser les esprits anciens tout en plaisant aux philosophes. C'est alors que les fantômes de la grande peur s'incarnèrent, fascinés par leur propre pouvoir de mobilisation, excités par les coqs du village qui voulaient se faire un nom et une place au soleil. Des bandes de paysans se mirent à attaquer des châteaux sans causer mort d'homme. Ils voulaient éprouver leur liberté et leur égalité toute neuve. Menés par un certain Jardel, tailleur de pierre à Saint-Geniès, ils investissaient les demeures des aristocrates les plus détestés, demandaient à manger et à boire de l'argent pour leurs milices et décrochaient les girouettes, symboles de noblesse, pour les suspendre à des mets, les arbres décorés de fleurs et de drapeaux qui à l'ordinaire célébraient le printemps et les temps nouveaux. Alors, les mets baissent beaucoup dans le Sarladé et bien sûr pour le 1er mai. Et de montant les ouvriers tenter un mets pour le patron qui leur payait le déjeuner. Voilà, alors, on va rester un peu en 90, alors 10 février 1790, Joseph de Fumel avait été brillamment élu maire de Bordeaux. Le marquis d'Olède, propriétaire de Margot et Aubryon, libéral et humaniste, mais rassurant pour les conservateurs, l'avait emporté sur le fils de Montesquieu. Vicomte d'Argicourt, assuré de sa défaite, avait renoncé à se présenter. Moins de 4000 électeurs avaient été en mesure de s'exprimer selon les règlements en vigueur. Le Café National, parti d'un suffrage universel, criait au complot réactionnaire. Le vieil homme était blessé de trouver Zéphyr. Alors Zéphyr, c'est le métis dont on a parlé. Zéphyr sans protéger au rang des contempteurs. Alors, bien sûr, on va continuer un tout petit peu. Alors, dans la région, le journal de Guyenne, le journal de Bordeaux et du département de la Gironde, ou la revue patriotique et du commerce, ne valaient guère mieux. Corentin, donc notre héros, avait découvert que ce mouvement qu'il croyait dominé par des avocats comme lui, hommes de lettres, assermentés, tombait entre les mains de journalistes haineux contre, comme Marat, Hébert et Babeuf, qui exigeraient des effets de style pour protéger, pour propager le désordre. Il aimait mieux croire ses correspondants girondins qui lui envoyaient chaque jour des comptes rendus détaillés et des copies d'interventions à l'Assemblée et au club des Jacobins par son frère. Il savait l'état d'esprit des militaires. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ben, son frère, c'est le sabreur de l'Empire, Fournier Sarlovès. Voilà, alors, la vie mondaine n'avait pas cessé avec les événements et le bon monde continuait à se presser au grand théâtre. Il s'est retrouvé à Olympe, qui se rendait régulièrement avec ses parents, et depuis quelque temps, il trouvait fuyant le regard que lui adressait le comte de Verteuil. Il n'était plus question de ses investissements, l'avocat s'étant dérangé avec Burton, peut-être soupçonnait-il quelque chose. Alors on va voir que eh ben, tout n'est pas toujours rose dans la vie. Alors, champion de Cissé, on va le retrouver hoche à la tête pour dire son approbation. Il restait un moment silencieux avant de reprendre la parole. N'avez-vous pas un frère engagé dans l'armée ? Si fait mon demi-frère François, donc François Sarlovès, il est à Paris, notre cadet Nicolas vient de le rejoindre. On le dit fort turbulent, querelleur au dernier degré, forte tête, de plus c'est un jacobin des plus farouches. Il aurait nui à votre carrière si vous aviez choisi le chemin des ordres. Vous êtes plus à votre aise dans le droit et les affaires. La vérification des comptes apportée par Corentin fut une formalité, le jeune homme en profita pour remettre au curé la serre sa lettre destinée à Catherine. Voilà. Alors, bien sûr, on va poursuivre un peu cette lecture. Donc, Corentin, il pensait beaucoup à Catherine, il avait reçu d'elle une réponse charmante et émouvante, elle lui pardonnait ses écarts. Bon, on va rencontrer quand même quelques personnes du beau sexe, voilà. Et l'assurer de son amour, la certitude d'être aimé, raviver ses propres sentiments. Il aurait voulu galoper vers elle, mais il était délégué par l'Assemblée. Sa mission l'envoyait à Périgueux, où la situation est explosive. De nouveaux troubles liés à la disette avaient éclaté. Un vent de révolte balayait les terres, les campagnes, les rues, des villes dans un pays habitué où Jacquerie avait voulu gagner le Quercy, le Lot, mais comme il fallait dire, désormais, bien sûr, maintenant on a un héros département, mais il lui répugnait de passer par Sarlat, sa ville natale, où la famille Fournier soutenait les agitateurs et craignait aussi que l'image de sa mère ne revienne l'assaillir. À Périgueux, il savait pouvoir compter sur le soutien de l'avocat Pipo Desgrands, girondin et franc-maçon comme lui. Alors Terrasson a été mis à sac. Je lui révéla ce dernier, le recevant chez lui, une troupe de 300 personnes menée par le Sarladais Baptiste Courreau et son complice, ci-devant seigneur de Linard, ravage le sud-est du département et menace les bourgeois et les fermiers et donne la chasse aux prêtres réfractaires. Ces fous prétendent rétablir l'ordre et tous les impôts. Voilà de bien sotte manière. Comment pense-t-il qu'un État fonctionne, dit Corentin, en haussant les épaules? Depuis Varennes, plus personne ne réfléchit. Ce sont que des épreuves de force et la situation est dangereuse. Le département a décidé de subventionner les boulangers pour au moins apaiser les émeutes de la faim, mais les abus sont nombreux. Voilà, alors, on va continuer un tout petit peu. À Bordeaux, il s'était écoulé près d'une année depuis le terrible drame qui avait coûté la vie à Catherine, donc sa fiancée kersinoise. Terrassé par le chagrin, Corentin avait passé quelque temps chez des amis et aussi éprouvé que lui, avant de rejoindre Bordeaux, il s'était battu pour obtenir la libération du curé Lasserre qu'il avait finalement arraché grâce à Pierre Pontard. On va retrouver quand même quelques personnages de cette époque devenus évêques constitutionnels de Périgueux. Le prêtre était assigné à résidence à Sarlat avec interdiction de célébrer l'office. Frappé son habituel optimisme prématurément vieilli, autant par la cruauté des événements que par la vie de débauche, le baron Ginouillac, un des acteurs de ce roman, avait promptement marié sa fille Mathilde à un vieil ami, le chevalier de Lunegarde. Voilà. Alors, ben, je crois qu'on arrive à la fin. Alors, ce qui va se passer, c'est que Corentin mais quand même, a quand même quelques documents qui vont être récupérés et on va le faire chanter en quelque sorte. Et il va bien sûr se venger après avoir fait, comment je peux dire, partie de la grande armée pour aller en Russie avec son frère Fournier Sarlovez. Voilà, je crois que mon temps est imparti. Je vous souhaite une bonne semaine, pas trop fraîche quand même. Voilà, au revoir.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.